CO2 Mon Amour avec le WWF. Protégez les joyaux de notre patrimoine naturel, les Alpes, la Méditerranée. Plus d'infos sur les dons, legs et assurances vie sur wwf.fr.
Ça fait 25 ans, oui, j'ai pas vu de campagne. Une jolie petite cabane avec une forêt autour et des sentiers à plus savoir quoi en foutre. J'en manque de chlorophylle. Je suis obligé d'aller au Castorama, rayon jardinage, pour voir un petit peu de verdure.
CO2, mon amour.
Moi, j'aime me lever tôt, avec la lumière, aller pisser, dehors, contre un arbre. Pisser contre un arbre.
Denis Chessou.
Et l'embrasser.
Quel bonheur, et oui, avec la voix de Jean Rochefort, CO2 Mon Amour, bonjour à toutes et à tous. Cette émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec un grand merci à nos amis de France Bleu Isère, à Pierre Vuena, son directeur technique, à Gérard Coste et Simon Berthier qui nous accompagnent à la technique, à Paris, Anne Norcochet et Maxime Ingrand, et assisté de Marion Philippe cette semaine, et bien c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Bonjour. Eh bien, quoi qu'il en soit, même si je connais un peu mieux le jazz que l'environnement, eh bien, surtout, allez-y. Et n'oubliez pas, Denis, que la liberté radiophonique ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Eh bien, c'est ce que nous répétait régulièrement Pierre Bouteiller, qui fut notre directeur. Et donc, nous allons tenter, en pensant à lui, d'être à la hauteur de cette douce injonction. Merci à vous, Pierre Bouteiller. Alors, dans l'actualité, corne de roc, mais quand va-t-on rendre enfin invendable l'appendice ornemental nasal du rhinocéros? Eh ouais, c'est la seule solution. Car sans aller jusqu'à piquer les cornes à la strychnine et à les peindre en rouge minium pour que les braconniers du parc de Thoiry ou d'ailleurs soient prévenus, on peut les enduire de substances répulsives générant à coup sûr des touristas d'enfer qui rendront impossible cet ignoble commerce. Alors on l'a déjà fait d'ailleurs dans certaines réserves d'Afrique. Faut peut-être pas attendre grand-chose des marchés asiatiques et sur l'évolution des consciences, sauf à acheter du Viagra à la place des cornes de rhinocéros, sinon risque de les tuer quand même jusqu'au dernier. Bref, en ces temps de violence et de conneries épaisses, si vous avez un rhinocéros chez vous à Grenoble ou ailleurs, interdisez-lui de sortir seul dans les rues ou promenez-le, mais seulement avec une laisse, ce sera plus sûr pour tout le monde. Alors tout se rejoint ici dans l'Y géographique grenoblois entre Vercors, Belledonne, Chartreuse et Grésivaudan. Les eaux tumultueuses du Drac et la course indolente de l'Isère, le lion contre le serpent, l'ingénieur et le sportif. Bah oui, c'est ça aussi Grenoble. Le rouge et le noir, bien sûr. La haute technologie et l'huile de noix. Lesdiguières, qui était un homme du XVIIe siècle, y fit un pont. La liberté, l'égalité, la fraternité s'y forgèrent. Aristide Bergès dompta la houille blanche. Petzel, le harnais d'escalade. On a même inventé du civon moderne ici. Deux grands couloirs glaciaires propices aux mouvements de masse, aux migrations historiques, militaires, ouvrières et touristiques. Bref, un territoire assez pilote, d'une belle richesse, qui est ouvert à tous les pionniers, à toutes les énergies, pas que nucléaires. Alors le vélo y a trouvé donc sa place, car Grenoble est une des villes de la mobilité douce en France, mouvement amplifié par Éric Piolle, son maire, et aussi souple à la roue quand on est sur le vélo ou sur le plat, que dur dans les mollets, dans les grimpettes, sillonné en tous sens par une activité humaine, fébrile, dévalant des alpages jusqu'au marais qui est parti parfois pour trop s'étaler. Et pourtant, quelques roselières lacustres, quelques forêts profondes cartusiennes, quelques cimes rocheuses inviolées voient encore s'accrocher un reste de vie sauvage. Autrement dit, on peut encore entendre la hulotte et on en parlera tout à l'heure avec Patrick Deschamps dans le Grésivaudan. Vous pouvez être surpris par le lynx. Bref, tout est possible car nous sommes historiquement et au présent dans une terre de résistance, de brassage d'idées, où tout n'est pas forcément que profit immédiat. Et parmi les hommes et les femmes d'entreprise qui l'habitent, vous avez des entrepreneurs qui agissent avec opiniâtreté, tranquillement, avec l'idée bien accrochée que l'environnement n'est pas forcément l'ennemi de l'économie. Alors ici se tient la Biennale des villes en transition pour un monde plus résilient et plus apaisé. Je vous salue, on vous salue Grenoble. Oui ! Grand merci donc d'être avec nous ici en direct pour parler de ces villes en transition. Alors quand même, à tout seigneur tout honneur, il y a un homme qui est un jeune garçon donc anglais qui s'appelle Rob Hopkins, qui un jour chez lui en 2005, simple citoyen britannique à Totsen, a inventé, a forgé cette idée de ville en transition. Donc il s'est dit que on pouvait réagir à partir des atouts disponibles localement, c'est-à-dire ne plus attendre forcément les aliments qui ont fait le tour du monde, ne plus déplorer la pollution, avoir un projet de coopérative d'énergie renouvelable de proximité, créer une monnaie locale nouvelle donc qui va permettre de laisser donc l'argent sur le territoire. Et cet homme-là était extrêmement contagieux. Aujourd'hui, donc, il y a 47 pays qui s'en sont emparés. Il y a plus de 1200 villes avec, on va dire, c'est pas un label, hein, c'est pas du tout un label de dire qu'on est une ville en transition. Et peut-être pour lancer effectivement cette merveilleuse table ronde, parce que là, pour une fois, elle est vraiment ronde, Pierre Kermen est avec nous, aujourd'hui directeur général de la Société publique locale d'aménagement et de la SEM Innovia. Alors Pierre Kermen, pour vous, effectivement, quand on parle de ville en transition, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, c'est probablement un beau mot, parce qu'il nous invite à changer d'état. Probablement que le XXe siècle a été celui où on a passé, avec beaucoup de frénésie, notre temps à industrialiser notre mode de vie. Et que c'est peut-être la fin de ce monde qu'on est en train de constater.
On l'a carrément taylorisé, quoi, c'était ça.
Absolument. Ouais. Parcellisé, fragmenté. Et celui du XXIe siècle est peut-être l'occasion de redonner de la vie à notre mode de vie. Et dans toutes nos vies, celle d'habiter, celle du travail, celle dans les relations avec les autres, peut-être aussi redonner de la vie dans la démocratie. Et c'est peut-être ça l'enjeu que nous devons engager. Probablement, il faut reconstruire un écosystème et remettre le vivant, ce que nous sommes fondamentalement. Parce que hier, peut-être que cette ville, ces villes notamment que nous avons construites, étaient trop éloignées de notre propre être. Par exemple, notre alimentation est si loin, si éloignée, alors qu'elle nous gagne tous les jours, tous les matins, les midis, les soirs, et j'espère pour tout le monde. Et c'est cet enjeu aujourd'hui de remettre le vivant, remettre le sensible, remettre cet éphémère, cette fragilité de la vie. D'ailleurs, nous sommes ici beaucoup des défenseurs de la ville durable. Peut-être que c'est un paradoxe. La ville ne doit pas être si durable que ça, puisque nous ne sommes pas vraiment, non. Puisque nous nous renouvelons avec nos générations, les générations futures.
Nous avons une espèce d'obsolescence programmée, nous-mêmes, au fond de nous, on va dire.
Absolument. Oui. Et c'est cet enjeu que nous devons avoir. Et c'est important aujourd'hui, parce que c'est une chance de retrouver ce sensible, notamment à travers des opérations que nous conduisons sur les nouveaux matériaux, qui ne sont pas nouveaux, mais le bois, la terre, qui sont des matériaux vivants. Auxquels nous pouvons attacher de la sensibilité.
Et d'ailleurs, hier, vous avez inauguré un nouveau lieu qui s'appelle Terra Nostra.
Absolument, avec un alors nouveau concept du 21e siècle qui est le BTP, savez-vous. Bois, terre, paille.
C'est bois, terre, paille,
c'est le BTP. C'est mon fiston qui m'a donné cette idée. Hein, c'est une bonne idée, relancer le BTP en 21e siècle avec cette belle idée de nos ressources locales, c'est-à-dire réinscrire l'urbain dans notre territoire, mais pas uniquement d'ailleurs l'urbain, mais aussi ce lien avec le monde rural. Ouais. Je pense que le 20e siècle a trop fragmenté le monde rural et le monde urbain. Je pense que nous avons aujourd'hui la possibilité de les rassembler.
Un homme qui ne va pas vous démentir, c'est Serge Gros, qui est le directeur des CAUE du CAUE de l'Isère, le Centre d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Alors Serge Gros, peut-être quand même quelques caractéristiques de ce territoire, s'il vous plaît, où nous sommes.
Oui, écoutez, vous l'avez dit à l'instant, on a la chance de vivre dans un territoire absolument exceptionnel, au cœur au pied de ces trois montagnes, qu'on connaît bien, qu'on fréquente, dont on use et on abuse, mais qui nous a aussi donné du fil à retordre dans l'histoire. C'est-à-dire que la ville, quand on l'analyse un peu, elle s'est un peu construite contre nature. Elle a repoussé les limites pour ne pas échapper finalement aux standards des 60 ou 70 dernières années, et où finalement la pensée de l'aménagement du territoire, guidée par la modernité, par l'accès plus vite et plus loin à tous, hein, comme c'était dit hier soir à MC2, finalement nous a tenté de mettre cette montagne au standard.
Alors ce qui est intéressant, pardonnez-moi Serge Gros, c'est que comme il y a eu une création de ce qu'on appelle un PLU intercommunal, donc un plan local d'urbanisme intercommunal, ça change tout, parce qu'il y a un regard qui est différent entre le haut et le bas, entre la montagne et la plaine par exemple.
C'est vrai que très longtemps, ce territoire a été planifié en deux dimensions. C'est-à-dire on s'est beaucoup intéressé à la croissance de la ville, chacun faisant sa commune et sa ville. Depuis quelque temps, les communes d'en bas se sont mises à travailler. Et puis la vraie révolution culturelle et technique, c'est celle quelques mois déjà, c'est de décider que le territoire rentrait en communauté d'agglomération pour engager un certain nombre de responsabilités.
Donc
en
c'est un projet collectif plus large.
La compétence aménagement, oui, qui permet de passer de l'esprit de chapelle historique, qui nous a guidés pendant des années, qui a eu ses vertus, à une pensée globale sur le territoire.
Et est-ce que les habitants, donc les citoyens aussi, peuvent avoir leur mot à dire, on va en parler, mais dans une 440 000 habitants quand même dans la métropole, 160 000 habitants donc sur Grenoble.
Il y a un goût particulier finalement pour le dialogue entre populations. Mais ce qui est nouveau, c'est aujourd'hui de connecter finalement cette possibilité des outils, de la volonté politique et l'appétence, les attentes des habitants, qui aujourd'hui nous permettent de réconcilier le bas avec le haut. C'est-à-dire de faire en sorte que au-delà de notre vie et de notre fréquentation quotidienne de nos territoires, on arrive à penser ensemble un projet global.
Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir posé, on va dire, ce décor sur ces villes en transition. Donc on va pouvoir les détailler parce que nous allons avoir des villes en transition donc de l'étranger qui sont venues ici. On va pouvoir donc en parler dans quelques instants, puis aussi quand même de la ville de Grenoble. Voici cette première chanson, La La Land, ça vous dit quelque chose? Oui, ils sont au point ici à Grenoble. C'est parti.
On est au bord du précipice, et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le tronc.
J'ai pas dit une chose.
Le capital, tu viens de le dire toi-même, le capital, c'est foutu.
foutu.
Ah oui, ça, c'est fini.
Bon, la société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Mais oui, avec l'aide donc de Lino Ventura, donc toujours en direct de cette biennale des villes en transition à Grenoble. Bonjour Éric Recoura.
Bonjour Denis.
Éric Recoura, vous êtes le directeur de l'action internationale ici dans cette ville de Grenoble. Alors donc, il y a eu quand même 20 municipalités, 20 grosses villes qui sont donc venues au cours de cette biennale. Alors on n'a pas pu avoir tout le monde parce qu'ils sont déjà repartis hein, pour certains. Mais faites-nous un petit point s'il vous plaît. Il y avait quand même Monsieur Hellers qui est en Équateur, le ministre du bien-vivre. Alors ça nous rappelle un peu, on va dire, le BNP de nos amis boutanais, le bonheur national brut, mais qu'est-ce qu'ils font ?
Il nous a fait un petit coucou depuis Quito, et je trouve qu'il nous a surtout permis de gagner en humilité, de nous dire que, après tant d'années à penser qu'on avait tout inventé et qu'on pouvait exporter notre savoir-faire français, notre expertise, en fait, on pouvait aussi apprendre des solutions du monde. Et là, en l'occurrence, c'était un enseignement qui nous arrivait directement, alors je mets des guillemets, de la culture indigène, ouais. Et notamment celui du bien vivre plutôt que de celui de se dire toujours plus, toujours vivre mieux, mais pourquoi ? Et finalement, on a pris le temps, notamment dans la grande salle hier de conférence, où on était tous réunis, et notamment avec toutes les délégations étrangères qui étaient là, pour prendre le temps de réfléchir et de penser aussi en pleine conscience, c'est pas un gros mot.
Non, pas du tout.
Non, vers comment on mène autrement des politiques publiques, comment on se rapproche aussi de la nature et de notre propre nature.
Donc ça veut dire que l'on donne un coup de pied dans le PIB quand même.
Et on donne un sacré coup de pied dans la notion de développement pour dire, derrière, essayons d'avoir des indicateurs alternatifs de mesure du bonheur, du bien-vivre, du bien-être.
Si on regarde la deuxième ville de Tunisie, donc, qui s'appelle le Sfax, qu'est-ce qu'ils ont dit aussi parce qu'ils font partie de ces villes en transition ?
À Sfax, le hasard fait que c'est une ville jumelle de Grenoble depuis une quarantaine d'années et on est heureux de les compter parmi nos partenaires parce que c'est un berceau des printemps arabes. Et aujourd'hui, on assiste vraiment à une réinvention aussi de la démocratie locale, quelque chose d'assez formidable qui se passe, notamment sur les budgets participatifs. Hier, quand Sfax nous a parlé de la manière de réinventer le budget municipal, puisque 10% du budget de la seconde ville tunisienne et de son investissement est aux mains des habitants, il y a quelques personnes qui ont été assez émues. On voyait des personnes âgées qui disaient « Merci, j'ai enfin l'impression d'avoir du pouvoir ».
Et alors, nous avons donc à nos côtés, parce qu'il n'est pas encore parti avec grand plaisir, Miguel Ancho Fernandez Lores, qui est le maire de Pontevedra. Pontevedra se trouve au nord-ouest de l'Espagne. Nous sommes en Galice. 83 000 habitants. Et alors, il faut bien se dire que dans les années 90, fin des années 90, Pontevedra était une ville qui était merveilleusement sclérosée. Le centre se désertifiait complètement. Il y avait 27 000 voitures par jour. Je reviendrai tout à l'heure sur la pollution aussi grenobloise. Le centre historique, c'était absolument terminé. Et alors, c'est très intéressant parce que cet homme-là a été élu sur la piétonnisation de sa ville. Alors, Miguel Fernandez Lorenz, s'il vous plaît, quels sont les résultats 15 ans après ?
Pues resultados muy positivos, ¿no? Una recuperación del espacio público para las personas, que es la idea inicial, recuperar la ciudad para los vecinos y las vecinas y utilizar el espacio público como un bien común, como si fuese un servicio público como la sanidad o la educación. El espacio público es donde se socializa la gente, donde no hay diferencias de clases, donde no hay diferencias entre la gente que tiene algún tipo de discapacidad o los niños o los viejos. Por lo tanto, es un espacio democrático y de convivencia.
Alors, donc, revenir à un espace démocratique, une réappropriation, évidemment, des individus et des gens dans cet espace. Julien Ramina, s'il vous plaît, donc, en tant que traducteur et interprète, de compléter un peu ce que j'ai dit.
Eh bien, les résultats ont été extrêmement positifs durant ces 17 années. Nous avions pour but, c'était notre idée première, de récupérer l'espace public et de le mettre au service des gens. Donc nous voulions utiliser cet espace public pour en faire un bien commun, un service public, au même titre que les services publics d'éducation ou de la santé. Dans les espaces publics, l'idée est ce sont en effet les lieux où les gens ont des relations sociales, des interactions sociales, où il n'y a pas de différence entre les classes et où il n'y a pas de différence entre les gens, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient des personnes âgées, des enfants, tout le monde peut s'y retrouver. C'est donc un lieu de démocratie et de partage.
Alors je tiens à préciser que vous n'êtes pas du tout un écologiste à la base, hein, donc c'était pas cela. Maintenant, parlez-nous en fait de comment on a mesuré les bienfaits, parce que vous avez sur 3,5 km², vous avez 51 000 habitants. Et quels ont été les bienfaits, on va dire, physiques et aussi de bien-être que vous avez constatés? Parce qu'au départ, bien sûr, beaucoup de gens ont crié, il y a eu des commerçants qui ont été contre, et puis après, ben non, au contraire, on a voulu piétonniser pratiquement toute la ville.
Bueno, primera cuestión, yo soy ecologista. Otra cosa es
ah,
que,
d'accord. Claro,
d'abord, je suis écologiste.
Oui, hein. Mais au départ, vous n'étiez pas...
Ah, pues es un error.
C'est, que c'est une erreur. Ah oui, d'accord.
Yo soy... ecologista. Es más, yo pienso que cada vez más personas viven en las ciudades, ¿no? Y que si hablamos de ecología tenemos que hablar de medio ambiente urbano, que es donde vive la gente. Hay una ecología del pajarito, que está bien, pero hay una ecología del espacio público donde vive todo el mundo. Yo creo que esa es la verdadera ecología. Y es donde vive la gente lo que tenemos que mejorar ese espacio público. Era invivible la ciudad de Pontevedra, era absolutamente invivible. El espacio público estaba ocupado por unos vehículos que son privados, no son, no, son de la gente, pero impiden que, la, que exista la mínima autonomía de las personas en el espacio público.
Julia Ramina,
este no me deis,
je vous en prie. Este hombre, no
me deis. Je suis d'abord, je tiens vraiment à préciser.
On a compris, il est écologiste, ça je me explique.
Chaque fois...
dès qu'il est né, il l'était, au milieu et à la fin, c'est ce que je disais, d'accord, ok.
Les villes sont en constante augmentation, il y a de plus en plus d'habitants, et donc moi je veux vraiment inscrire l'écologie dans les villes, puisque l'environnement urbain est un environnement écologique au même titre que celui qui s'occupe des petits oiseaux, hein. Donc oui. La véritable écologie, c'est véritablement celle qui s'intéresse à notre environnement urbain. Et je dois dire que la ville de Pontevedra était tout simplement invivable auparavant. Il y avait des véhicules privés, hein, qui étaient vraiment là dans la ville et qui empêchaient le développement de l'autonomie des citoyens.
Alors, donc, il y a une pollution qui a baissé quand même de 63%. Maintenant, dites-nous comment vous y êtes pris. C'est-à-dire que vous avez placé l'individu au cœur de ce modèle social. Quel a été le mode d'emploi pour y arriver? Parce qu'il a fallu une volonté politique quand même, affirmée.
Todo el proceso fue un proceso muy participado. No es posible que exista un acuerdo unánime de la sociedad. No hay acuerdo unánime. Pero sí hay una gran mayoría de gente más dinámica que apuesta por cambiar para bien. Luego ya los políticos tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Si nos equivocamos, ya se encargarán de echarnos. No fue lo que pasó en Pontevedra porque ya me eligieron 5 veces. Es decir, que algo estaremos haciendo bien para que nos elijan 5 veces seguidas. Lo que conseguimos fue conseguimos que el aire en Pontevedra cumpla los 365 días del año los parámetros de la Organización de la Mundial de la Salud. Los 365 días. O sea, no hay contaminación ambiental en el aire de Pontevedra porque reducimos el 90% de los vehículos que innecesariamente cruzaban la ciudad, buscaban aparcamiento y congestionaban... Y ocupaban el espacio público de las personas.
Alors, Julien Ramina, on a bien compris qu'il n'y avait pas une unanimité, on se doute bien évidemment, de la population donc, au départ. Après, comment ça s'est passé?
Il s'agissait forcément d'un processus extrêmement participatif. Et donc la majorité des gens se sont réunis et ont décidé de voter pour ce changement. Les hommes politiques, bien sûr, doivent prendre les décisions en leur nom. Et s'ils ne l'avaient pas fait, et s'ils ne le font pas, en général, les gens ne les réélisent pas. Moi, j'ai été réélu, en tout cas, 5 fois dans ce... dans ce poste, donc c'est bien la preuve que les gens ont fini par me soutenir.
Oui, c'est une royauté, quoi. Non, mais pardon, oui, donc, ok, donc 5 fois, tant mieux.
En tout cas, ce que nous avons réussi à obtenir, c'est que l'air dans la ville de Pontevedra, 365 jours par an, est un air qui est pur au sens auquel l'établit l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Il n'y a pas de pollution de l'air. Et pourquoi? Parce que nous avons tout simplement réduit la circulation des véhicules qui n'étaient pas nécessaires et qui ne faisaient que tourner dans la ville, chercher un stationnement de manière complètement inutile.
Voilà. Et donc, effectivement, lorsque vous mettez des prunes, comme on dit, des amendes autour de 100 euros, donc ça calme un tout petit peu, aussi les choses. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait rajouter, Eric Recoura, donc, par rapport donc, à cette ville de Pontevedra? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu en fait, de report forcément sur les transports en commun? Non, pas du tout. C'était ce qu'il nous expliquait. C'était passionnant. On avait même du mal à terminer la table ronde avec le maire de Pontevedra, tellement on avait de questions. Il n'y a pas eu de report. Il y a eu juste une autre manière de faire, radicale, dans la ville.
Oui, c'est ça. Et donc, depuis 6 ans, je crois qu'il n'y a plus un seul accident maintenant aussi en ville. Et ça,
plus un seul mort. Oui.
C'est quand même très fort. Alors, aussi était invitée la ville d'Essen. Alors là, nous sommes dans le land de Rhénanie de Nord-Westphalie, donc qui est la région la plus peuplée d'Allemagne. C'est la 3e ville d'Allemagne. Et qui était une ville, en fait, qui est passée du gris, j'allais dire, au vert. On est dans l'ancienne cité minière et métallurgique avec ThyssenKrupp. Et donc, ils ont fait tout un travail de renaturation qui est intéressant.
Et donc, effectivement, le maire était avec nous, premier mandat, pour nous expliquer ce qui était mené à Essen et ce qui fait qu'aujourd'hui, Essen est capitale verte européenne pendant toute l'année 2017. Et c'était extrêmement intéressant de voir les projets qui étaient menés sur les anciens bassins miniers, mais aussi sur l'espace public, sur la conquête de l'espace public suite à la fin des mines. Et c'était assez intéressant de voir aussi que derrière, c'est aussi des politiques sociales qui sont menées. Et le maire d'Essen est aussi intervenu pour parler de l'accueil des migrants arrivés en nombre sur l'Allemagne et inspirant aussi les pratiques que nous menons à Grenoble en ce domaine.
Et donc, il y a une rivière qui s'appelle la Emscher qui a servi de dépotoir industriel. Donc là, ils sont en phase de reconquête. L'objectif, c'est aussi 25% des habitants qui utilisent le vélo, ce qui nous fait d'ailleurs une belle transition avec vous, Lucille Lheureux, parce que vous êtes la directrice des espaces publics et de la nature en ville, donc ici à Grenoble. En tout cas, vous en avez la charge. Alors, c'est vrai qu'à côté, vous avez quand même un territoire qui est vraiment en transition, qui s'appelle le Trièves. J'avais fait une émission au mois de septembre. Là, ils sont. Alors, c'est pas le même nombre d'habitants, évidemment, au-dessus du côté du col de Faux et du côté de Mince. Mais comment, alors là, c'est intéressant. Comment, en fait, première question avec vous, Lucille Lheureux, c'est comment on récupère de la nature en ville. Vous avez 18 km2, donc à Grenoble. Et comment on fait? Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse bien.
Alors d'abord, on redonne de la place aux citoyens, puisque la nature en ville, pour nous, c'est d'abord un enjeu environnemental, bien entendu, sur la biodiversité, mais c'est surtout un enjeu social et de rencontre entre les gens et de lutte, certes, contre la pollution et pour promouvoir la santé des habitants, mais surtout de lutte contre la solitude. Et donc, une des premières actions que nous avons mises en place, c'était de permettre à chaque Grenoblois de demander à la ville de Grenoble de lui aménager n'importe où dans la ville, sur les trottoirs, sur les places, en pied d'immeuble, des espaces de nature à jardiner pour faire revenir cette nature dont nous avons tant besoin dans nos villes, mais surtout pour se rencontrer entre voisins, au pied des immeubles, entre générations.
Oui, parce qu'en fait, le paradoxe, c'est que du vert, vous en avez absolument autour, évidemment, de Grenoble, mais en fait, il y en a très peu au sein de cette ville. Alors, vous avez fait un recensement des espaces qui pourraient être possibles, et même aussi sur les toits des maisons, des immeubles.
Oui, je voudrais saluer ici le travail des services de la ville qui ont travaillé ces derniers mois pour faire une cartographie de la ville de Grenoble et de tout son potentiel de végétalisation, de nature, à la fois sur les toitures, les façades et tous les espaces libres au sol. Et c'était extrêmement intéressant puisque en combinant tout un tas de données comme la portance, l'inclinaison des toits, leur encombrement,
on arrive à 64 hectares.
Voilà, on se rend compte qu'on a une énorme possibilité de végétaliser notre ville. Et bien sûr, vous l'avez décrit, il y a un paradoxe à Grenoble puisqu'on a l'impression que au bout de chaque rue une montagne et qu'on va pouvoir sortir, qu'on va pouvoir prendre l'air. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a des Grenoblois qui n'ont ni les moyens, ni la possibilité, ni l'habitude d'aller fréquenter cette montagne. Et donc, c'est à nous de leur permettre au quotidien d'avoir des espaces de respiration et de rencontre en ville.
Alors respiration, on va y venir parce qu'évidemment, lorsque l'on parle de Grenoble, alors au départ c'est pas de votre faute, c'est la configuration géographique qui est comme ça, mais vous êtes aussi malheureusement un peu champion avec l'Arve, avec Paris qui se porte très très bien de ce côté-là aussi, de pics de pollution. Alors vous pouvez intervenir en fait vous sur deux leviers, c'est-à-dire l'écomobilité d'un côté et le chauffage au bois de l'autre. Alors écomobilité, donc c'est là que ça nous fait le lien avec Essen dont on parlait donc tout à l'heure. L'homo urbanus circule en général comme un mouvement perpétuel parce qu'on a l'impression qu'il a bouffé une pendule. Et donc on sait que, c'est ce que dit Thierry Pacot qui est de la revue écologique, il dit qu'un citadin à l'arrêt est un citadin qui est mort. Vous voyez, il est exclu, il est banni hors jeu. Alors là, vous êtes très au point quand même sur le vélo. C'est, dans le tiercé des villes de France, Grenoble est là où le vélo est le plus utilisé. Ça, c'est assez intéressant parce que vous mettez des infrastructures en place.
Oui, 15% des Grenoblois font leur trajet domicile-travail en vélo. C'est la deuxième ville de France où cette utilisation du vélo est la plus importante. Et pour arriver à ce chiffre-là, mais surtout pour permettre qu'il grossisse, il faut accompagner le changement que les Grenoblois ont mis en œuvre dans leur comportement depuis des années déjà. Et cela, on peut le faire de plusieurs manières. La première, bien entendu, c'est de leur mettre à disposition des vélos. Et donc, nous avons un service qui est géré par la collectivité, donc par la métropole.
Vous avez 7000 vélos, je crois.
Voilà, de vélos qui sont à disposition des Grenoblois. Et puis de avec sécuriser... une tarification qui est importante, au quotient familial, une tarification solidaire pour permettre à chacun d'avoir accès à cette mobilité douce et d'engager cette transition.
Et après, bien sûr, sécuriser donc, le cycliste que je suis aussi. Moi, je crois que je me suis baladé, j'étais à peu près en sécurité. Il y a bien le dire, c'est pas un problème.
Évidemment.
Mais ça, c'est un des freins. Quoi.
Une ville pour tous, c'est une mobilité pour tous, c'est une mobilité pour chacun, que ce soit les enfants. Et donc, on travaille surtout sur la réduction des vitesses en ville. Je rappelle que la métropole est passée à 30 km/h dans sa totalité il y a maintenant plus d'un an et que c'est le moyen de permettre à chacun de se sentir à sa place dans ses déplacements, n'importe où en ville. Et puis nous travaillons sur des axes structurants à vélo qui permettront de faire des grands déplacements, des grands trajets et de percevoir le vélo non plus comme un loisir mais comme un mode de déplacement au quotidien. Donc ces axes, ils permettront de rejoindre d'un côté à l'autre de la métropole, bien sûr en desservant le centre-ville, le centre
historique. Et puis à la gare, vous avez des parkings en forme de silo pour pouvoir ranger les vélos.
Plusieurs milliers de vélos.
Voilà, comme ça, on ne s'est fait pas piquer, ce qui est quand même tout à fait sympathique. À côté de ça aussi, là je ne parle pas de Grenoble, mais je parle de votre merveilleuse région, dont d'ailleurs effectivement le président de la région donc, aime bien couper les vivres à certaines associations environnementales. Donc il y a aussi la voiture est quand même évidemment assez utilisée. Alors il y a le téléphérique urbain, donc là nous voyons pas loin donc avec le site de la Bastille ce téléphérique qui a été créé bien avant Medellin, hein, même en Colombie, et je crois que bientôt vous en avez un en projet de téléphérique urbain pour soulager le côté ouest, l'entrée ouest de la ville.
Oui, le métro câble et enfin le travail de câble qui est en cours permettra de franchir en fait des obstacles naturels que sont le Drac et l'Isère, ainsi que l'obstacle qui est l'autoroute, et permettra ainsi aux Grenoblois et aux métropolitains de rejoindre un bout à l'autre de la métropole sans avoir à franchir toutes ces étapes, et en leur permettant un accès direct et écologique.
Bon, si je vous dis Isère et Michel Fugain, vous serez tous d'accord ici, hein, tout va bien. Bah oui, allez, hop, c'est parti, Michel Fugain, les Ronciers.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
On cueillait des mûres sur les ronciers, au bord de l'Isère. On cueillait des mûres et des baisers, encore un peu verts. On regardait les filles riaient. Leur jupe jonquille, les fruits de l'été s'éveillaient. On cueillait les mûres sur les ronciers, au bord de l'Isère. Et si les ronds sous l'amour piquaient, la belle affaire, c'était l'âge où l'on remplissait nos premiers cendriers. On rêvait de vivre sans se plier, histoire de se distinguer. C'était l'âge où l'on se saoulait de toutes les idées. On cueillait des mûres sur les ronciers après le ciné. Des vieux films en noir et blanc, mais faits comme on les aimait. On parlait pour les filles écoutaient à côté. Il fallait que l'on brille pour les approcher. Qu'un jour tout allait changer. C'était l'âge où l'on terre. Et si les ronds sous la vie piquaient la belle affaire.
Qu'est-ce que c'est agréable, Michel Fugain, évidemment, avec toute son enfance ici, avec son père d'ailleurs, qui est décédé il y a quelques temps et donc était aussi un sacré résistant. Et vous avez le fort du Barou d'ailleurs aussi, qui est très intéressant, qui est derrière dans le Grésivaudan, qui est à voir, qui était aussi un lieu de résistance. Lucile Lheureux, je vois aussi que cette ville a un peu dépollué sa publicité, donc très rapidement, il y a un contrat qui n'a pas été renouvelé, quoi, ce qui nous évite d'avoir des sucettes ou des 4 mètres
sur 3. Le contrat qui liait la ville à l'entreprise prise de co, pour ne pas la nommer, a été arrivée à son terme et nous avons fait le choix de ne pas reconduire de nouveaux contrats publicitaires pour notre espace public, ce qui est à peu près unique en France, en Europe et peut-être dans le monde, en tout cas pour une ville de cette taille. Et donc c'est quelque chose qui pour nous est très important parce que c'est un enjeu fort pour reconquérir aussi nos centres-villes et le commerce de nos centres-villes et lutter contre cette grande distribution absolument dépassée et ces grandes surfaces en périphérie de nos villes qui consomment du foncier qu'on préférerait réserver à nos agriculteurs.
C'est tout à fait courageux. À nos côtés, Bernard Méric, qui est un photographe qui a un site assez formidable qui s'appelle le Carnet de Lumière. Et donc Bernard Méric, en fait, vous êtes un homme qui avait photographié l'Islande, la route de la soie, l'Iran, l'Afrique, la Libye, que sais-je. Et alors vous avez une carte blanche de la part de la mairie. Vous avez pu photographier à votre manière la transition à Grenoble. Donc on peut voir évidemment ces résultats ici dans la ville de Grenoble. Mais alors qu'est-ce que vous avez vu? Donnez-nous effectivement comme ça, de manière un peu pointilliste, comme ça, des éléments qui vous ont plu, s'il vous plaît, Bernard Méric.
Oui, bonjour. Donc c'était une expérience assez riche de rencontres, de partages pendant 3 mois. Donc j'ai parcouru toutes les rues, les quartiers en vélo d'ailleurs, pour témoigner de ce qui se passait au niveau transition. Et de ceci dans tous les domaines. Dans des domaines d'habitat, d'énergie, de mobilité.
Alors regardons les jardins. On y va.
Les jardins. Donc les jardins, je pense que dans cette biennale-là, c'est la partie peut-être la plus dynamique, avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de gens qui se rassemblent, qui travaillent ensemble. Et donc je voudrais partager simplement une des premières expériences que j'ai eues sur Grenoble. C'était un jardin qui s'appelle L'Essentiel. Et en fait, les personnes étaient là, m'ont invité, parce que des écoles, deux classes en fait, venaient dans ce jardin. Elle venait à l'appel d'une association qui s'appelle Brain Grenouillette, qui est représentée ici, et pour faire ce qu'elle appelait en fait des lasagnes de compost.
Oui.
Donc ça a été une expérience intéressante parce que...
Avec du cheval ou du... Non.
Non, en fait, les enfants avaient amené des déchets de chez eux. Donc il y a toute une partie éducative. On amène des déchets de chez soi. On fait des composts en couches, en lasagne, et avec une association. Donc c'est un exemple de jardinier, association, école, éducatif. J'ai fait des photos d'ailleurs de cet événement que j'ai redonné à l'école. Donc en fait, les institutrices ont pu faire après des séances pour rejouer cette phase.
Et puisque nous étions dans la mobilité, là aussi c'est tout à fait intéressant, de voir qu'à une époque, les marchands de vélos, ils ont été un peu court-circuités par la grande distribution. Et là maintenant, on a du marchand de vélos qui revient. Il y a des photos superbes aussi dans votre exposition, on va dire, itinérante.
Oui, en fait, on a parlé tout à l'heure de la mobilité, donc c'est une affaire de citoyens, les collectivités. Les collectivités locales fournissent l'infrastructure avec les silos et les vélos, etc. Mais il y a énormément de choses qui se passent aussi en innovation. Innovation sur les vélos, vous voyez des vélos toutes formes maintenant. Vous voyez beaucoup de nouveaux magasins de réparation, par exemple, avec des cafés.
Il y a un café vélo. Il y a des repères vélos, il y a des cafés vélos.
Il y a des repères vélos. Il y a une institution sur la place de Grenoble qui s'appelle Le Petit Vélo dans la Tête. Mais il y a aussi ce que j'ai fait à Villeneuve, par exemple, avec un monsieur qui est pris en photo ici, un monsieur qui s'appelle François, qui est un bénévole qui vient réparer des vélos dans une association qui s'appelle Osmose sur la Villeneuve.
Alors c'est une manière aussi de montrer cette transition, parce qu'il faut montrer les choses aux gens, hein. Ça passe vraiment vraiment comme ça, et les montrer donc aussi acteurs. Alors c'est votre cas, Fabienne Marès, parce que vous êtes depuis donc des années membre d'Alternatiba, donc ici en Isère, et vous souhaitiez aussi montrer donc cette transition, on va dire, en dehors des centres-villes. Alors peut-être d'abord un petit point, puisqu'on a parlé des jardins, ça nous amène aussi à l'agriculture.
nourriture. Ça fait partie, c'est extrêmement fort. Ça. Il y a beaucoup de villes qui essayent de reconquérir leur nourriture, même si ce n'est pas simple, mais peu importe. Il faut y aller. Agriculture urbaine, qu'est-ce que vous dites sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous accompagnez?
Eh bien, en fait, suite à notre premier village des alternatives en 2015, qui avait permis en fait de regrouper tout un tas d'acteurs agriculteurs et jardiniers en fait de l'agglomération, un collectif vient de se monter sur l'agriculture urbaine et l'autonomie alimentaire. Et donc, on a notamment une association qui s'appelle Cultivons nos toits, qui a maintenant depuis l'année 2016 en fait 3 salariés et qui travaille en collaboration avec nos collectivités territoriales pour identifier des toits plats de Grenoble sur lesquels, en fait, on peut faire pousser des légumes, pousser des fruits. Et donc, on ne parle pas uniquement d'agrément, puisque là, il y a le toit, par exemple, de la casemate, qui est en cours d'installation. D'ailleurs, un financement participatif est aussi en cours sur Ulule, en fait, pour ce maraîchage aérien. Et donc, on pourra, en fait, à terme, produire une tonne de légumes qui seront vendus en circuit ultra court, là, pour le coup, puisqu'en fait, on a des restaurateurs, en fait, autour de ce toit. Et on a aussi la possibilité, en fait, avec la ville de Grenoble, c'est ce qui est prévu, de faire des paniers en fait solidaires à partir de ces légumes.
Que vous descendrez par l'escalier et pas en envoyant la cagette directement depuis le toit.
C'est à négocier.
Je comprends assez bien. Ça peut être aussi un circuit court. Là aussi, Lucile Lheureux, là aussi, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que peut faire une ville comme Grenoble pour essayer de un peu plus de se réapproprier sa nourriture, même s'il y a encore du boulot?
Alors évidemment, le premier levier, c'est la restauration collective. Hein. Dans une ville comme Grenoble, on produit 10 000 repas par jour pour les écoliers grenoblois. Donc l'enjeu, c'est d'arriver pour cette alimentation-là, à travailler avec des circuits locaux, une alimentation saine et de qualité. Donc on a atteint les 50% de produits bio et locaux dans ces cantines, dans ces repas scolaires. Un autre levier fort que nous voulons travailler, c'est l'approvisionnement de nos villes. J'ai parlé tout à l'heure de défense du foncier agricole, qui est essentiel dans notre couronne périurbaine et notre agriculture de montagne qu'il faut préserver. Et puis, on peut travailler sur des choses plus innovantes et se réapproprier des espaces en ville, comme l'a dit Fabienne Marez, à la fois par des initiatives citoyennes, individuelles, privées, de la société civile.
Et puis vous avez un espace horticole.
Nous avons la chance à Grenoble d'avoir un centre horticole de production de l'ensemble de nos plants qui sont produits par les espaces verts de la ville de Grenoble. Et ce centre horticole est sous-utilisé en deçà de sa capacité.
On fait quoi du maraîchage?
Donc on peut se dire, on peut travailler à l'installation de maraîchers dans cet espace-là pour avoir de la production alimentaire en ville pour la ville.
Voilà, ça c'est de la politique au sens de la vie de la cité. Le Grésivaudan est absolument à côté, je dis ça pour nos amis qui ne connaissent pas forcément la région, ici bien évidemment on connaît bien, donc c'est une grande plaine qui se trouve entre Grenoble et Chambéry, qui est un petit peu urbanisée, c'est là où je vous parlais véritablement d'étalement urbain. Et comme vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aussi, ce 11 mars, c'est la nuit de la chouette. Voilà, on parle très peu des chouettes, sauf sur France Inter dans cette émission. Donc ça va être la nuit de la chouette et un peu partout en France. Donc là, vous avez un site sur le site de CO2 Mon Amour. Et on va rejoindre Patrick Deschamps, que j'ai rencontré, qui est quelqu'un de formidable, qui est un naturaliste, qui sera ce soir chez lui à Sainte-Marie-d'Alois, d'ailleurs parce qu'il appartient à la LPO. Et donc il vous montrera et vous présentera ses chouettes, on va dire, préférées. Donc nous partons avec lui dans la Chartreuse, quelques instants, pendant 4 minutes, se faire du bien, respirer et écouter les jolies petites chouettes.
Alors Patrick, on s'intéresse à la chouette-ulotte, c'est le chat-huant?
Oui, c'est ça, le chat-huant, c'est-à-dire que c'est l'oiseau en fait le plus populaire, tout le monde a entendu n'importe quel film qui se passe la nuit, vous avez la même chouette-ulotte qu'on entend en bande-son, mais la chouette-ulotte, elle ne chante pas n'importe où, n'importe quoi, surtout quand il y a des gars qui se tirent dessus, par exemple, comme on voit dans certains films, tout le monde défouraille, mais on entend la ulotte derrière qui chante tranquillement.
Alors nous, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de monde qui défouraille, donc voilà. C'est déjà sympathique.
Mais c'est un oiseau forestier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la chercher en pleine, dans les endroits où il n'y a que du maïs ou des grandes monocultures.
Là, on est franchement plus qu'en lisière de forêt, là, on est rentré dedans.
C'est-à-dire que c'est un milieu qui est très forestier avec des arbres anciens et vieux parce que la hulotte, elle niche dans les arbres creux. Ouais. Ça peut lui arriver de nicher dans les bâtiments aussi, d'où le château de Niolan. Il peut très bien y avoir une hulotte qui niche dans le secteur. Je ne sais pas s'il y en a une. En général, il y a des oiseaux qui travaillent le jour, mais des oiseaux qui travaillent la nuit. Le jour, il y a les faucons cresserelles qui vont profiter de ces tours-là. Et puis la nuit, il peut y avoir une hulotte. Voilà, c'est un oiseau que tout le monde connaît parce que c'est le chat-huant, c'est celle qui fait ouh. Et en fait, c'est l'image de la chouette effraie que les gens avaient l'habitude de voir parce qu'elle habitait dans les granges,
dans les clochers,
montait très fréquemment. Hein, quand on ouvrait une porte de grange puis qu'il y avait une effraie qui passait par le trou que vous aviez ouvert en ouvrant la porte, vous avez un fantôme qui passe. Et comme là, on ne connaît pas le chant de la chouette effraie, puis c'est pas très beau, c'est chut, des chuintements comme ça. Par contre, le chant de la hulotte qu'on entend très bien la nuit, on associe donc l'image de la chouette effraie qu'on voyait souvent au son de la hulotte qu'on entend souvent. Et on fait des fantômes comme ça. Il ne reste plus que le bruit des chaînes.
Comment elle vit cette chouette hulotte alors?
La chouette hulotte, il lui faut un milieu forestier, en même temps un milieu ouvert, c'est-à-dire qu'il faut pour chasser, elle peut chasser sous les arbres, il n'y a pas de problème. Voilà, mais il lui faut des arbres creux pour nicher en général. Donc, c'est assez volumineux, donc il faut de la place, donc des arbres creux assez importants.
C'est pour ça qu'on dit laissons vivre les arbres morts.
Voilà, et qu'il y a un vieil arbre, un vieux qui n'a pas de valeur marchande, un vieux châtaignier ou un vieux chêne taché par la foudre ou des trucs comme ça, c'est un bonheur pour les pics. Par exemple, dans les forêts de Chartreuse, vous avez des pics noirs qui font des trous. Dans l'une trou du pic noir, en fait, il fait une loge pour après d'autres oiseaux. Il peut y avoir des chouettes chevêchettes ou des chouettes de tegmalm dans certaines forêts, par exemple dans le Vercors, qui viennent nicher dans le nid qui a été fait par. Donc, quand l'homme réserve un arbre creux, il permet à des tas d'espèces de vivre. Il peut y avoir des chauves-souris aussi dans un arbre creux. Comme biodiversité, c'est parfait.
Ça y est, rien pour nous là.
On entend chanter la hulotte. C'est quand même une chance. Il faut dire que c'est une période qui est un peu favorable parce que là, ils marquent leur territoire. Ils se font repérer des autres. Le chant, ça a deux rôles. Ça veut dire je suis là, je suis, c'est mon territoire de chasse, foutez-moi la paix. Et en même temps, je suis un beau mâle. S'il y a une femelle qui passe, qui est libre, je suis preneur. L'amour est dans le pré et dans le bois aussi.
C'est sûr, oui. Et elle fait le travail que nous pourrions faire.
C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des animaux qui font le travail pour nous. C'est-à-dire la nature, elle a mis quand même des millions d'années à s'équilibrer. Il y a des rongeurs forestiers qui font des dégâts dans les cultures, les choses comme ça. La hulotte, elle régule. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une hulotte quelque part, elle va se prendre 5 ou 6 campagnols ou souris ou mulots dans la nuit. C'est toujours ça qu'on n'aura pas empoisonné. Donc ça se régule comme ça. Quand elle nourrit ses jeunes, quand il y a un couple et qu'elle nourrit ses jeunes, ça fait un paquet de proies qui partent. Et des insectes ravageurs aussi, parce que quand elle est dans un arbre creux, qu'elle voit passer un gros insecte, un capricorne ou même un lucane cerf-volant, elle va se le becter.
Voilà.
C'est pas regardant.
Patrick Deschamps, dans le Grésivaudan, donc ce soir, dans le cadre de cette nuit de la chouette, il sera à 21h à Sainte-Marie-d'Alois. Mais je sais qu'il y a des manifestations partout en France, donc avec cette fameuse nuit de la chouette. Bernard Méric, notre photographe, donc, qui a photographié la transition donc, énergétique à Grenoble et puis autour. Si je vous parle de champignons, vous nous emmenez où? Du côté des Bains, me semble-t-il?
Oui, du côté des Bains, c'est un autre exemple d'emploi et d'initiative prise par une association. Et cette fois, avec l'aide d'une société, d'une PME qui s'appelle Cross, qui a, avec un fonds de dotation, qui a aidé cette association avec l'aide aussi de la mairie des Bains, pour récupérer des vieilles caves des Bains et créer quelque part une scope pour produire des champignons pour les restaurants locaux. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez important dans cette transition, c'est qu'il y a des emplois. Et ce sont des emplois locaux. Et qui viennent souvent de l'intersection entre des citoyens, des associations, collectivités locales qui fournissent quelque part l'infrastructure, mais aussi des entreprises privées ou des financements qui permettent à ces associations d'aller au-delà simplement de se réunir, mais aussi, dans certains cas, de créer des emplois et du négoce.
Alors, Lucille Lheureux, moi je me retourne vers vous, donc responsable de l'espace public de la nature en ville, mais évidemment vous vous intéressez aussi avec Mondane Jactat qui s'occupe de la santé, de cette pollution. J'y reviens un petit peu quand même, parce qu'aujourd'hui, donc pollution en France, ça fait 48 000 personnes qui décèdent prématurément. Pour vous, c'est quand même une personne tous les 3 jours, donc c'est quand même énorme. Je disais effectivement qu'on a le volet mobilité pour une ville. Puis l'autre volet, je le disais aussi, c'était sur les cheminées, donc les inserts ouverts, qui sont aussi quand même de véritables catastrophes et des envois de particules fines dans tous les sens. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider effectivement les personnes qui, on comprend très bien, ont envie d'avoir ce plaisir-là, mais que peut-on faire pour les aider?
Le problème, c'est pas en fait le feu de cheminée en tant que tel, c'est bien le feu de cheminée ouvert et le foyer ouvert. Donc ce que l'on peut faire, c'est accompagner les gens tout simplement par une aide financière pour transformer leur cheminée que l'on a tous déjà fréquenté avec grand plaisir, certes, mais en insert, en foyer fermé, en poêle de meilleure qualité, puisque travailler sur baisser le niveau de particules fines dans notre agglomération, c'est le premier levier pour améliorer la santé des Grenoblois.
Comment participent les habitants? Comment peuvent participer, on va dire, à des prises de décision? De toute façon, au final, évidemment, il y a quand même une majorité qui a été élue, mais comment mettons les citoyens dans la boucle?
Alors, la majorité élue, elle a été sur une envie de transition. On a parlé de transition environnementale, on a parlé un petit peu à la marge de transition économique, mais la transition démocratique et la participation citoyenne, c'est un enjeu majeur du XXIe siècle. Et pour nous, il s'agit d'encourager l'émulation. Et la puissance publique, elle doit accompagner surtout les initiatives, les envies des citoyens, et elle doit surtout rendre du pouvoir de faire et du pouvoir d'agir. Et c'est pourquoi nous avons une grande exigence de participation, de dialogue dans tous les projets, que ce soit d'urbanisme, d'aménagement. L'objectif, c'est d'intégrer tous les publics en concertation, même les enfants qui sont souvent éloignés de la décision du politique. Pourtant, c'est bien eux qui feront et qui vivront la ville de demain. Donc, il y a un enjeu aujourd'hui à leur demander leur avis, à savoir comment est-ce qu'ils rêvent leur ville. Et puis, on se dote d'outils comme les budgets participatifs qui permettent aux résidents étrangers, aux Grenoblois à partir de 16 ans, de prendre des décisions sur un budget concret qui leur est alloué pour des projets de 5, 10, jusqu'à 400 000 euros. Donc, des projets portés par les citoyens, votés par les citoyens, mis en œuvre par les citoyens accompagnés de la
puissance publique. Fabienne Marez, donc Alternative à Isère, ça vous le constatez ici, donc il y a une façon un peu différente de faire.
Disons qu'en fait, il y a effectivement beaucoup de citoyens et d'habitants qui ont envie de s'emparer en fait de certains sujets. Donc on le voit en fait avec deux exemples. Je vais parler de Solaire d'ici. Donc Solaire d'ici, un projet en fait de production d'énergie solaire photovoltaïque.
On va juste rappeler que notre ami le Soleil, qui se trouve à 150 millions d'ici, on lui fait un grand coucou.
Et il brille beaucoup aujourd'hui.
D'ailleurs, en l'espace de deux heures, d'abord il brille, effectivement, il fait 15-16 degrés, donc c'est très agréable. Mais en l'espace de deux heures, il va envoyer ce que consomme l'ensemble de la planète en matière comme ça, donc on va dire entre guillemets d'électricité.
Et voilà, alors nous, notre objectif, ça va être déjà en fait de couvrir 100 toitures sur la métropole, de manière à fournir l'électricité en fait nécessaire pour 400 familles. Ça sera en fait donc la plus grosse coopérative citoyenne de production en fait d'énergie photovoltaïque en France. Il y a 400 projets en ce moment qui sont en cours en France, et ça sera aussi en fait la première dans un environnement urbain.
Et puis, comme il faut un tout petit peu vite, l'éléphant. L'éléphant, c'est un supermarché collaboratif. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être une centrale d'achat de produits locaux de consommateurs
Voilà. Donc, c'est l'éléphant, puisque il a un petit air exotique comme ça. Et donc, effectivement, ce sont là encore des citoyens qui ont décidé de se réunir pour accéder, en fait, à une alimentation, et pas que, en fait, aussi des produits moins chers et de qualité qu'ils choisiraient eux-mêmes. Donc, une association qui, d'ailleurs, se présente cet après-midi, en ce moment, pendant que nous parlons en fait à la Cinémathèque.
Non, ils écoutent la radio. Là.
Ils écoutent la radio, bien en sûr. Fait, au lieu de discuter. Mais donc voilà, quel est le supermarché de nos rêves ? Comment aimerions-nous en fait trouver les produits et quels produits ? Acheter local, acheter bio ou pas, et être en fait non pas uniquement consommateur, mais aussi décideur en fait des produits que nous allons trouver dans ce supermarché.
En une phrase, mais peut-être une phrase et demie quand même, Bernard Méric, qu'est-ce qui vous a plus épaté en voyant donc ces citoyens agir dans cette transition ?
Enfin, je pense que c'est la passion des gens, le partage, la convivialité. Et très peu de personnes que j'ai pu rencontrer dans ces trois mois connaissaient le mot transition. Mais en fait, ils en faisaient. Et je pense que c'est quelque chose qui, tous les jours, ils lançaient leurs initiatives. Et j'arrivais, je disais, je travaille sur la transition. Ils me disaient, qu'est-ce que c'est ? Je disais, vous avez vu le film Demain ? Et en fait, ça se fait. Et je pense que cette biennale, dans ce contexte-là, c'est un début. C'est un début, en même temps c'est un constat, c'est une photo, mais c'est un début de quelque chose qui va s'épanouir.
Bon, je crois qu'on peut les applaudir. Un grand merci à vous, amis de Grenoble, d'être venus ici pour ce direct. Alors là, ça part à rapport complètement direct, mais je le dis parce que c'est une excellente revue, l'hebdomadaire Le 1. Vous n'êtes pas concerné encore par le pôle Nord, vous avez quand même des glaciers qui fondent, vous le voyez aussi, il va falloir repenser le ski, mais on commence à y penser. Pôle Nord, le frigo est détraqué, c'est un excellent numéro qui est donc encore en vente, Le 1, pôle Nord, le frigo est détraqué. Grand merci à nos amis de France Bleu, Gérard Coste, Simon Berthier, Pierre Vuenat de France Bleu Isère, donc France Bleu Isère qui nous ont accueillis, qui nous ont offert leur technique. Merci à Marion Philippe, notre assistante, à Xavier Pestugia qui réalisait l'émission, à Muriel Pérez qui a choisi les disques, à Anne Gouzon donc, qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, nous ne serons pas chez vous, non, ce sera un reportage dans une très jolie vallée qui n'est pas connue dans les Cévennes, qui s'appelle la vallée du Galaison. Et là, c'est 2700 personnes qui aussi transitent, voyez, donc c'est un peu ça l'idée, c'est d'essayer de transiter et de faire bouger un tout petit peu les choses. On vous souhaite un excellent week-end. La Tulie Montilou, ce sera demain à 19h54 après les petits bateau. Profitez bien de tout, et dans quelques instants, ce sera la librairie francophone d'Emmanuel Kérad.